Bien, merci beaucoup Sophie, et puis je remercie Maud aussi de m'avoir invitée et de me permettre ainsi de présenter une partie de mes recherches qui devra aboutir à une thèse dans quelques temps. Donc voilà, je vais donc vous parler de ces deux maisons de couture. Et je commence tout d'abord en disant que l'histoire des maisons de couture ne relève pas seulement d'une histoire de la mode, elle relève aussi d'une histoire du cinéma, lorsque ces maisons vont travailler pour l'industrie du cinéma au début de son invention. J'ai choisi deux exemples de maisons de couture. Merci Sophie. Liolaine et son travail sur le film de Rex Ingram, Le Magicien, 1926, et Chanel pour son travail sur le film Tonight or Never de Mervyn Leroy, sorti en 1931. Plusieurs maisons de couture habilleront des actrices à l'écran. Leur passage devant le grand écran va permettre d'élaborer quelques analyses sur la mode au cinéma et sur leurs différentes conceptions du travail durant les années 20 et au tout début des années 30 pour le film de Gloria Swanson. La participation des maisons de couture à la création artistique, que ce soit au théâtre ou au cinéma, a démarré assez tôt. Au début des années 10 déjà, Paul Poiret s'y est illustré. Il va travailler sur plusieurs films entre 1912 et 1920. Il fera notamment les costumes de deux films de Louis Mercanton, Queen Elizabeth avec Sarah Bernhardt en 1912 et L'Appel du sang en 1919. Il va poursuivre ensuite sa participation au cinéma dans le très cubiste film de Marcel Lherbier, L'Inhumaine, en 1924, qui va être le porte-drapeau de la section cinématographique à l'exposition universelle de 1925. Il va confectionner les costumes de Sarah Bernhardt au théâtre, notamment dans L'Aiglon, et au cinéma, il l'habillera pour son dernier film, pour le dernier film de la comédienne, La Voyante, en 1923. Donc Chanel, bien sûr, va créer des costumes pour la scène dans les années 10, mais elle va s'intéresser assez tard au cinéma, au final, au début des années 30 seulement. Elle poursuivra ensuite sa carrière dans les années 50 et 60. On peut aussi donner l'exemple de Jeanne Lanvin, qui fera à peu près la même chose. Elle va travailler pour le théâtre et pour le cinéma également. En 1960, c'est au tour de Jean Mitry, historien et cinéaste, de rédiger son histoire du cinéma en 5 volumes. Et il explique à l'intérieur de son ouvrage que jusqu'en 1920, les producteurs de films à costumes eurent recours à de rares exceptions près aux costumiers de théâtre, dont la garde-robe habillait toutes les pièces du répertoire. Les vêtements d'époque étaient alors établis d'après des modèles standards, sortis des estampes nationales. Aucune création originale ne s'imposait pour la circonstance. Un problème qui, lorsqu'il commence à être pris en compte, va mettre en évidence une autre facette du problème, si on peut dire, c'est-à-dire qu'entre la création des costumes et la première diffusion des films, les robes proposées étaient déjà démodées, lorsqu'il s'agissait bien sûr de films contemporains. Louis Deluc, qui était journaliste, critique de cinéma et cinéaste, dans ses années 10 et 20, proposait dans son ouvrage « Photogénie » en 1920, donc, de créer pour les comédiennes une sorte d'uniforme. Il disait une robe qui ne relève pas d'une mode, mais une robe qui soit assez stylisée pour être de tous les temps, ce qui aurait pu faciliter le problème. Mais, bon, des avancées se font, et ce sont les comiques qui vont commencer à s'intéresser beaucoup plus aux costumes, parce que les comiques ont un personnage qui a besoin de se distinguer fortement et ils vont recourir de ce fait à un vêtement significatif. Vous avez là sur le diapo Max Linder en France ou Charlie Chaplin aux États-Unis qui vont pouvoir se démarquer par leur costume bien approprié. Mais ça va être également, et de plus en plus, on le verra, aux États-Unis, les actrices de céréales. Donc ça sera l'actrice Pearl White dans le rôle d'Ellen Dodge dans Les Mystères de New York en 1914 qui deviendra l'archétype de l'héroïne américaine grâce à son costume constitué d'un tailleur, donc on ne voit pas trop le tailleur, mais la chemise blanche, l'énorme lavalière et le béret de velours noir. en France. Le premier costume créé pour le cinéma sera le collant noir porté par Josette Andriot dans Protea en 1913, puis repris ensuite par Louis Feuillade pour Musidora dans sa série Les Vampires en 1916. Au cours des années 20, donc, à mesure que le cinéma grandit, le costume va prendre une importance grandissante parmi les éléments d'expression qui interviennent dans la réalisation d'un film. La pensée, les mots, les situations n'ont d'existence cinématographique que si elles peuvent être traduites par des images. Le cinéma est un art visuel. Ainsi, la construction d'une scène, d'un personnage, n'aura de sens que par un travail sur le costume également. Et cela, les cinéastes vont en prendre conscience. Le choix d'une maison de couture se porte le plus souvent au profit de la vedette principale qui souvent, comme nous venons de le voir, propose son couturier attitré. Il y a des avantages pour le cinéma, c'est la publicité. C'est également une visibilité plus large pour la maison de couture. Le film devient ainsi la vitrine du savoir-faire français en mettant la haute couture sur le devant des entreprises exportatrices. Les films sont de bons véhicules car ils sont vendus à l'étranger. Le nom de la maison de couture apparaît alors au générique des films. Lorsque les films sont réalisés en France, et c'est le cas pour Le Magicien, c'est aussi la France et ses lieux à la mode qui sont montrés comme une formidable carte postale publicitaire, associant la mode et ses lieux à la mode, Deauville et son casino, Paris et ses cabarets, ou la Côte d'Azur et ses aristocrates fortunés. L'actrice principale devient, d'une part, l'ambassadrice du film qu'elle porte, au même titre que les autres vedettes du film, grâce à sa notoriété, mais aussi c'est une ambassadrice d'un nom, d'une marque, plutôt que d'un style, ce que nous verrons peut-être avec Chanel tout à l'heure, en valorisant la maison de couture qui l'a habillée sur le film. Si, donc, la maison de couture Liolène va réaliser, donc ici c'est Hélène Schifrin, va réaliser les costumes d'Alistairie dans Le Magicien en 1926. Le film est réalisé par Axine Graham et produit par la MGM au studio de la Victorine à Nice. Puis Hélène Liolène costumera deux autres films, ça sera Nuit de Prince, pour Gina Manès de Marcel L'Herbier en 1928 et Le Bal de Wilhelm Tilde en 1931. La maison Liolène a été créée en 1925 et cessera son activité en 1932. Hélène Puterman, née Hélène Schifrin, donc, est née à Bakou, en Azerbaïdjan, réfugiée russe, venue en France au début des années 20, après la Révolution russe. Elle va cependant quitter le pays, donc la France, à la fin des années 30, certainement à cause de la montée du nazisme et des lois anti-juives, qu'on va dire, comme de nombreux Français, malheureusement, de confession juive à cette période. Les frères de la couturière sont Simon Schifrin et Jacques, fondateur de la collection La Pléiade. Simon, producteur de cinéma, semblerait être le lien entre la maison de couture et le cinéma, car il va être le producteur des deux autres films auxquels Hélène Liolène participera ensuite, Nuit de Prince et Le Bal. On retrouve ensuite Liolène dans les années 40 à New York, enseignant à la School Art League de New York. Elle ouvre une école, School of Design, aux États-Unis, pour apprendre le métier de couturière. Elle enseigne à l'Eden Moon College à Saint-Charles et puis on la retrouve à Kansas City dans une entreprise de confection très importante dans les années 10, celle de Nell Donnelly, où elle va devenir une consulting designer pour cette entrepreneuse. Sa boutique dans les années 20 se situe au 16 Place Vendôme à Paris sous l'appellation Robe Mode Lingerie. On peut découvrir donc 38 modèles de sa collection déposée en 1929 à l'Office national de la propriété intellectuelle. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, ça, c'est les vêtements du film. Et j'ai mis en exergue la collection de 1929, puisque ce sont les seules photographies de cette collection qu'elle a pu déposer. Donc, cette collection de 29 arrive, disons, 3 ans après son travail sur Le Magicien et permet de comprendre un peu 2 choses. Les modèles figurant sur ces photos, vous le constaterez, sont d'une simplicité qui tranche un peu avec la sophistication des vêtements qu'elle fait pour le film, pour Alistairie dans le film. On s'aperçoit ainsi que le travail sur les costumes d'Alistairie et le rôle qu'elle tient dans le film, c'est une sculptrice habitant le quartier latin à Paris, tranche un peu, bien sûr, avec les vêtements qu'elle porte. C'est ceux d'une femme du monde. Ici aussi, également. Il s'agit bien sûr de mettre la vedette en valeur dans le film. De ce fait, le lien entre le costume et le rôle du personnage dans le film ne se fait pas dans ce sens-là. Le lien va se faire avec la nature du film. Il s'agit d'un film d'horreur, un des premiers de l'époque. Et de ce point de vue, le cinéaste et la couturière, donc là, il aurait été bien d'avoir des éléments de courrier ou des notes qui pourraient nous faire comprendre comment ils ont travaillé ensemble, ce que je n'ai pas encore trouvé. On semble-t-il travailler sur une signification de la nature du film à travers les vêtements de la vedette. Je vous remets le photogramme précédent. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Afin que vous voyez en fait que bon, le film, c'est un film d'horreur, la magie occulte est présente dans le film, et à travers le personnage d'un médecin magicien, un savant fou, le manteau que porte ici à l'hystérie, que je vous montre de nouveau, semble aussi appuyer ce constat. Donc quand on regarde un peu le vêtement, par ses manches amples, tombant en pointe, cette fourrure autour du col, sur le bas du manteau, qui laisse deviner un costume un peu de magicien ou celui d'un Merlin enchanteur. Donc j'ai quelques photos ici de Merlin. Donc c'est pas celle-ci, mais c'est celle-là, voilà. Où on peut s'approprier un peu cette idée-là, des manches en pointe, et cette idée de Merlin, et celle-ci, voilà, qui nous fait tout à fait penser aux vêtements qu'elle a réalisés pour l'actrice. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit extrait pour que vous voyez le costume en mouvement. Je voudrais le faire avancer un peu plus vite, mais je ne sais pas si je peux. Voilà, on la voit s'éloigner, on voit ses manches. Hop. Voilà. C'est bon. Donc les vêtements d'Alistairie reflètent cette idée de peur ou d'angoisse que le personnage, donc Margaret, porte durant le film. Elle va être hypnotisée par un savant fou qui veut la tuer, donc grâce à une formule découverte dans un vieux manuscrit. Deux robes de couleur foncée qu'elle porte dans le film soulignent cette peur. Donc c'est notamment celui-ci. Il s'agit ici d'un manteau porté sur une robe de même ton, dont la fourrure qui borde le bas du vêtement tombe en pointe, signifiant les griffes d'un animal sauvage. Et donc je mets toujours à côté les vêtements de sa collection. Alors, je vais vous montrer également un petit extrait. On la voit arriver avec son costume. Voilà. Hein ? Donc, la seconde robe que vous voyez ici à l'écran, portée sous une cape de crêpe légère, évoque là quelques mammifères volants, telles la chauve-souris. On est de nouveau dans les codes des films fantastiques, des films de magie. Et la fin du film se déroule dans un donjon, donc le donjon d'un château perché sur une colline. Les vêtements, pour avoir une idée de la simplicité du vêtement, de sa collection, face aux vêtements qu'elle construit, qu'elle fabrique pour le film. J'aurais dû les couper un peu avant. Donc on est à Monte-Carlo, sur la Côte d'Azur, bien sûr. Voilà, donc on voit le vêtement, la robe dont je vous parlais, inspirée un peu d'une chauve-souris. Voilà. Et ce dernier costume, donc c'est la robe de fin, donc digne d'un conte fantastique, portée lors de la scène se déroulant au casino. Je vais vous la montrer également en mouvement. Donc le vêtement s'adapte aux scènes, bien sûr, qui sont jouées. La création parfaite d'un costume ne suppose que celui-ci soit réalisé dans un sens symbolique et dans une valeur rythmique et spatiale. Si j'arrive à lancer le... Voilà. Il ne s'agit pas dans le travail de Lionel sur le film de quelques robes donc d'une collection présentée grâce à l'hystérie, comme je vous les ai montrées à côté, un peu pour avoir une idée. Même si c'est la vedette qu'il faut mettre en valeur, c'est au service de l'histoire et de l'ambiance du film que les vêtements sont fabriqués. Donc les films sont muets, 1926. Je vais mettre en parallèle maintenant le travail de Chanel sur un autre film. Elle commence donc sa carrière dans les années 30 et elle a déjà travaillé pour le théâtre dans les années 20. 1922, Antigone de Cocteau, Le train bleu pour les ballets de Diaghilev en 24 et Orphée de Cocteau également en 1927. À la différence de Liolène, qui n'a semble-t-il jamais travaillé au théâtre, Gabrielle Chanel a une habitude de travail fait pour la scène, pour le spectacle. Pour sa première participation au cinéma, c'est Hollywood qui réclame son talent. Dans la biographie des mondes Charleroux, Paris en 74, et celle d'Henri Gidel sur Coco Chanel, publiée en 99, on apprend que la rencontre entre Chanel et Samuel Goldwyn, producteur de films à Hollywood, se fait à Monte-Carlo. Samuel Goldwyn, alors producteur indépendant, propose à Chanel, une somme très importante pour l'époque, $1 million par an, pour se rendre à Hollywood chaque printemps et chaque automne, car il estime qu'habiller les vedettes, par la plus grande couturière de l'époque, contribuerait assurer le retour du public dans les salles de cinéma. En 29-30, les États-Unis, comme vous le savez, subissent une grave crise économique, une crise qui va se propager, bien sûr, à toute l'Europe. C'est aussi une période charnière. On passe des robes plus courtes durant les années 20, la décennie des années 20, à des robes qui se rallongent dans les années 30. Et pour faire venir Chanel à Hollywood, pour Samuel Goldwyn, c'est s'assurer quelque part de la haute couture parisienne à domicile. Goldwyn pense qu'ainsi les femmes fréquenteront les cinémas pour deux raisons, voir des films, bien sûr, et voir aussi les derniers cris à la mode. Il souhaite que toutes les actrices travaillant pour United Artists soient habillées à la ville, comme à la scène, par Chanel. Bon, seulement toutes les stars savent ce qui leur va et ce qui va plaire au public. Ce n'est pas toujours le cas. Goldwyn veut en faire l'unique costumière de toutes ses stars, un peu comme Adrian dans les studios de la MGM à cette période-là. Chanel n'est pas dans l'attente d'un regain de publicité à ce moment-là. Elle est déjà une grande couturière, elle a une grande entreprise en France. À cette époque, elle habite déjà de nombreuses clientes fortunées américaines. Seulement faire connaître ses modèles par le biais du cinéma donnerait à Chanel les moyens de les vendre d'une autre façon, c'est-à-dire sans sa griffe aux grands confectionneurs américains qui pourraient ainsi les reproduire et les vendre moins cher et toucher donc une population d'acheteuses plus modeste. On le voit, sa façon d'aborder le cinéma ne relève pas d'une démarche purement esthétique, mais plutôt commerciale. Elle va travailler sur trois productions donc, de Samuel Goldwyn, donc Tonight or Never, des extraits que je vais vous montrer tout à l'heure. En 32, ça sera The Greeks Had a World for Them. Donc, elle habillera une autre actrice, Ina Claire, parce que pour Tonight or Never, il s'agit de Gloria Swanson. Et en 31, elle fait un autre film, et là, Palmy Days, où elle n'envoie en fait que quelques modèles de sa dernière collection. Simplement, Chanel semble sans doute ignorer toutes les nécessités photogéniques. Elle pensait en fait transposer son style devant la caméra, alors que l'écran hollywoodien réclame luxe, chic, éclatant, détails clinquants également, car la caméra montre les détails et le regard du spectateur a tout loisir de vagabonder dans le plan. Il n'est pas au théâtre. Et donc, de ce fait, le travail au cinéma n'est pas le même qu'au théâtre. Et il n'est certainement pas le même qu'une couturière habillant des modèles pour une collection. Ainsi, Gloria Swanson, dans ses mémoires, expliquait ses essayages difficiles avec Chanel, qui veut lui faire perdre 2 kilos pour qu'elle rentre dans une robe de satin noir. Donc, je vais montrer quelques extraits, parce que les mesures avaient été prises quelques 6 mois avant. Effectivement, la star était enceinte à ce moment-là et ne voulait pas que la production en soit informée. Chanel va être obligée de faire porter à la star des sous-vêtements élastiques sous ses créations afin qu'elle puisse porter les robes qu'elle lui a confectionnées. Donc, notamment celle-ci. Donc, je vais vous montrer un exemple de la robe noire dont Gloria Swanson parle dans ses mémoires. Donc vous voyez que c'est une robe longue, la décennie des années 30 qui commence. La mode à l'écran doit être réinterprétée sans jamais véritablement marquer une date, donc toute la difficulté. Voilà. Donc dans l'autre exemple, je vais vous montrer un autre modèle qu'elle porte dans le film. Donc là, c'est un ensemble très simple, avec un chapeau cloche, propre aux années 20. Aïe, je vais trop vite. Mais la jupe est plus longue, là aussi. L'élégance de Chanel, donc, relève d'une élégance sobre, que l'on ne remarque pas. Et donc la star, elle, veut être remarquée. Elle veut être différente à l'écran des autres actrices. Dans ce contexte où Chanel tient à conserver son style, son travail n'est pas spécialement de nature à valoriser l'image de l'actrice. Je vous présente encore un autre modèle que l'on trouve dans le film. C'est une robe pyjama en imprimé fluide. Dès 1925, sans doute, le pyjama devient indispensable dans une garde-robe et il a été très prisé par Gabrielle Chanel.
Well, anyway, I had a success.
Yes, you are a success in Venice and Budapest. That's something, of course. But when will you sing in America?
When will I sing in America? When will I sing in America? That's all I hear from you, day in and day out. You must have some pupils there.
Voilà. Et puis le dernier extrait que je vais vous montrer, c'est une robe de soirée. Donc, ici. Et donc la caméra, si ça se lance, voilà. Et donc vous voyez dans ces petits extraits comment la caméra montre à chaque fois le personnage en pied. La robe est montrée, elle tourne dans sa totalité, dans un ou deux plans en général, afin de bien la voir sur plusieurs angles, bien sûr. Malheureusement, le film n'a pas beaucoup plu à la presse et aux spectateurs. Les films, malheureusement, auxquels elle participera n'ont pas vraiment marché aux États-Unis. Chanel repartira n'ayant pas réellement apprécié son travail à Hollywood. On peut penser que sa sobriété élégante tranchait avec ce qu'Hollywood réclamait et attendait pour habiller la star. À travers les costumes présents dans ce film, on est plus proche d'une garde-robe reconstituée. Nous avons tout au long du film de robes de soirée, une tenue d'intérieur, un déshabillé de nuit, une tenue de voyage, autant dire un vrai défilé. À la différence de Liolène, on semble ici avec Chanel dans un autre aspect de la mode au cinéma. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour l'instant. Merci beaucoup.
Oui, merci. C'est vraiment passionnant. Une question qui concerne... Je voulais savoir si vous avez des informations sur la manière dont les couturiers d'Hollywood, des studios, ont réagi par rapport à l'arrivée de Chanel. Ouais. Et si le studio de Goldwyn avait déjà des couturiers de studio.
Alors, ce que je sais, c'est que à cette époque-là, il y avait des couturiers qui travaillaient dans les studios américains et ils allaient régulièrement en France pour voir un peu les collections qui se faisaient. Goldwyn a pensé qu'en amenant Chanel aux États-Unis, ça serait déjà beaucoup plus simple pour lui, pour pouvoir faire travailler son département couture. Mais c'était un producteur indépendant déjà. Donc il y avait déjà des couturiers dans les studios, mais je ne sais pas si Goldwyn avait d'autres couturiers autour de lui. Ça, je ne le sais pas. Mais ça existait, puisque je donnais l'exemple d'Adrien, déjà à la MGM. Bon, il y en a eu d'autres après. Mais la manière dont est réparti le travail, c'est presque une sorte de directeur artistique qui gère un peu le département couture dans les studios américains. Différent de ce que...
Il me semble qu'il y a eu une rivalité assez féroce.
Oui, elle a eu du mal à s'imposer, puisqu'il voulait en fait habiller toutes ses stars par Chanel.
Comment elle a fait pour gérer sa maison de couture pendant ce temps-là? Elle est partie longtemps?
En fait, elle a été, le contrat a stipulé qu'elle vienne deux fois.
Enfin, des petits séjours.
Voilà, des petits séjours. Ah. Mais je pense qu'elle n'a pas, elle n'était pas du tout intéressée par rester aux États-Unis dès le départ. Non. Oui. Ça, je ne sais pas. Mais on n'est pas resté très longtemps pour ce séjour-là. Elle n'est pas restée très longtemps.
En pensant à ce que tu as dit à propos de Chanel, il me revenait aussi qu'un peu plus tard aussi, Dior a eu cette même difficulté de s'insérer dans les équipes de tournage américaines. Et donc, je pense aussi que ça vient peut-être aussi du fait de comment est
construit la manière dont c'est. Oui. Ce sont des studios, en fait, avec un département bien structuré. Et ramener quelqu'un comme ça de l'extérieur, c'est évidemment très difficile.
Et c'est vrai, et je pense que c'est lié à ça. Et justement, en fait, aussi, on peut le comprendre aussi avec tout ce qui... Enfin, comme tu as centré beaucoup sur les États-Unis, et c'est ton propos comme ça, mais ce qui se passe aussi du côté aussi, justement, de la France, et tous les rapports aussi avec les couturiers. Et les couturiers, tu l'as un peu dit, avec Poiret, avec Sonia Delaunay, et tout ça, qui ont été beaucoup dans la mouvance russe, quand même, et de la synergie des arts, et de participer, enfin, où à ce moment-là, le couturier est intégré totalement au projet. Il y a une espèce de cohésion totale et d'invention pour le film.
C'est ce qui manque, en fait. C'est ce qui manque. Ce sont des documents qui pourraient nous expliquer comment ils ont collaboré entre les maisons de couture et le cinéaste. C'est souvent la difficulté.
Je me demandais si les robes des stars étaient faites par la maison Chanel à Paris ou si c'était fait dans les studios américains, par un atelier américain, sous la...
l'autorité de Chanel. Oui. Ça, je ne sais pas, justement. Mais je pense que ça devrait être comme ça. Ils voyaient Chanel plutôt comme une directrice département de couture du studio, certainement. Mais là, Samuel Goldwyn était un producteur indépendant, c'est-à-dire qu'il faisait distribuer ses films par United Artists, en l'occurrence pour ces trois-là. Donc, il l'avait peut-être recrutée à titre personnel pour qu'elle travaille pour lui. Je n'ai pas les informations à ce niveau-là. Pas encore, peut-être. À rechercher, en tous les cas.
Encore une autre question. Vous avez parlé de l'opportunité commerciale que pouvait représenter cette présence sur les écrans hollywoodiens. Pour Chanel, vous pouvez en dire un peu plus? Vous avez des informations là-dessus? Jusqu'où c'est allé, cette histoire?
Opportunité commerciale, c'est-à-dire les retombées économiques du fait que les films soient... Non, ça, je n'ai pas. Et c'est bien ça qui manque, des retombées économiques de la publicité qui est faite grâce aux films, quelque part.
Et notamment l'idée que... Je ne sais pas, j'ai peut-être mal compris, mais qu'elle aurait peut-être envisagé des déclinaisons des robes de l'écran pour les department stores.
Véronique en avait parlé un petit peu, de tout ce qui était propriété intellectuelle, et ce matin, enfin tout à l'heure. Je pense qu'ils avaient cette idée-là, c'est-à-dire les Français venant aux États-Unis, de pouvoir peut-être vendre d'une autre façon leur production aux Américains, puisqu'il y avait quand même beaucoup de confections, beaucoup plus que la haute couture, c'est parisien. Et j'avais donné l'exemple de Liolaine, qui, elle, venant de la haute couture, est allée aux États-Unis dans une grande maison de confection qui s'appelait Neil Donnelly, où elle a travaillé en tant que consulting designer. C'est-à-dire qu'ils donnaient un peu de leur savoir-faire, de leur style, dans des entreprises qui essayaient ensuite de reproduire ça pour une classe sociale beaucoup plus modeste. Donc les retombées économiques, je pense qu'elle pensait, elle, un peu à ça, c'est-à-dire diffuser son style, puisque bon, elle n'était pas tellement farouche à ce qu'on la copie, donc elle voyait ça peut-être d'une manière légale, une manière de diffuser son style d'une façon plus légale. Je ne sais pas, ça je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, non. Mais pour les vêtements aussi, parce qu'elle elle envisageait de les vendre à des entreprises de confection, où à ce moment-là, sa griffe n'apparaîtrait pas. C'était peut-être le début du prêt-à-porter. Oui, certainement, certainement. Oui.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.